Donc moi je vais vous parler de la revue simulée de morbi-mortalité et vous expliquer en quoi c'est un vrai concept, un nouveau concept donc au service de la gestion des risques. Alors la Haute Autorité de Santé préconise, et jusqu'avant 2016 ne faisait que nous préconiser que dans le cadre de l'amélioration des pratiques et lorsqu'il y avait un événement indésirable grave ou potentiellement grave qui arrivait, eh bien nous devons faire une déclaration, qu'après cette déclaration nous devions faire une analyse systémique et surtout non stigmatisante, et ça c'est un point très important parce qu'on va déjà commencer à voir et pouvoir faire un rapprochement avec finalement la bienveillance ou alors le good judgment, quand on en a parlé hier, et puis surtout qu'à l'issue de cette analyse, eh bien on allait pouvoir mettre en place des mesures correctives. Et puis depuis 2016, eh bien, nous avons plus qu'une incitation forte, puisque nous avons l'obligation de déclaration des événements désirables graves, d'abord auprès des ARS, et puis ensuite l'ARS retransmet donc à l'HAS, pour après faire éventuellement un regroupement. Alors l'ARSMM, eh bien, ce n'est pas moi qui ai l'idée, vous avez principalement les deux personnes qui sont à l'origine de ça dans cette salle. Vous avez le professeur Grandry et Madame Moll qui, dans leur rapport de mission en 2011, nous ont incité à faire la revue simulée de morbi-mortalité en nous expliquant que, eh bien, au niveau régional ou national, les accidents les plus graves devaient faire l'objet de reconstitution en simulation. Le deuxième jalon sur la revue simulée de morbi-mortalité est dans encore le guide des bonnes pratiques du professeur Grandry et de Madame Moll. Et puis nous avons aussi sur le plan, le programme national pour la sécurité des patients 2013-2017, une incitation forte à faire donc de l'ARMM simulé. Donc trois grands jalons, trois grands principes pour nous inciter, nous, formateurs en simulation, à développer ce concept de revue simulée de morbi-mortalité. Alors désolé pour ceux qui connaissent le principe de l'ARMM, mais je suis obligé d'en parler. Qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, c'est une analyse systémique, c'est-à-dire qu'on va rechercher les causes profondes de la survenue d'un événement indésirable et surtout non stigmatisant. On n'est pas là pour montrer du doigt la personne qui a pu conduire ou le groupe de personnes qui a pu conduire l'événement indésirable, mais en tout cas comprendre la survenue de cet événement indésirable grave et surtout, de par cette analyse systémique, de par l'analyse profonde des causes, éviter la récurrence. Alors, il y a plusieurs méthodes pour réaliser une RMM. Je sais que Mme Moll est plutôt partisane de la méthode de l'arbre des causes. Il y a l'HS qui, aussi qui a décrit un outil intéressant qui est la méthode alarme. En tout cas, la RMM, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un questionnement profond pour rechercher la genèse de l'événement indésirable grave. Et surtout pour aboutir à quelles sont les actions à mettre en œuvre pour éviter la survenue d'un événement indésirable de même type. Eh bien, je vais vous décrire ici la méthode alarme. J'aime bien la faire figurer de cette manière puisqu'elle peut nous rappeler le concept de Reason, le concept de l'alignement des trous du fromage suisse, que les Suisses me pardonnent, je ne me rappelle jamais si c'est l'Emmental et le Gruyère, surtout qu'ici on est plutôt spécialisé dans le Livarot. En tout cas, chaque trou pourrait faire correspondre à une grande famille. La méthode alarme, c'est quoi ? C'est le jeu des sept familles. C'est-à-dire qu'on va voir la grande famille sur qu'est-ce qui, dans le contexte institutionnel, a pu aboutir à un alignement des trous de notre fromage. Dans l'équipe, qu'est-ce qui a pu permettre la survenue de l'événement indésirable grave ? Et tout ça, on va le décliner sur tout ce qui pourrait interférer, tout ce qui pourrait aboutir à l'accomplissement d'une tâche. Et c'est souvent cet accomplissement de la tâche finale qui conduit à l'événement indésirable grave. Alors d'accord, je vous ai parlé de la RMM. Maintenant, nous, on est ici pour parler de simulation. Est-ce qu'il y a des points communs entre la RMM et la simulation ? Oui. La simulation, on va jouer un scénario d'ailleurs qui est souvent basé sur un événement désirable grave ou une histoire qui a abouti à une complication, on va faire un débriefing structuré qui va pouvoir permettre de faire des mesures de correction et proposer des axes d'amélioration à l'apprenant. Et tout ça, pourquoi ? Pour assurer une maîtrise du risque. Et bien dans la RMM, on va non pas jouer un scénario, mais on va faire une description narrative d'un cas. Et cette description, eh bien, à partir de cette description, on va faire une analyse profonde, et proposer également des mesures de correction et des axes d'amélioration. Et là encore, pourquoi ? Eh bien, pour maîtriser le risque. Et là, on peut voir que, eh bien, toutes les notions peuvent matcher puisqu'elles sont toutes parallèles. Alors, si on met ça dans notre checker, eh bien, ça donne ça. Comment on va réaliser une revue simulée de morbimortalité ? Il y a 4 grandes manières, finalement, de raconter l'histoire ou de la faire vivre. La première, c'est que, eh bien, on va pouvoir simuler un cas qu'on va enregistrer en vidéo et qu'on va pouvoir utiliser après. La deuxième, c'est qu'on va mettre en situation le scénario d'événements désirables graves par une équipe et puis le débriefer en plus petit comité. Il y a une autre méthode un petit peu plus musclée qui consiste à mettre en situation le scénario, enfin en tout cas l'événement indésirable grave qui est arrivé, et on le met en situation avec l'équipe qui a concouru ou qui a participé malheureusement à l'événement indésirable grave. Alors là, on est déjà dans une dimension un petit peu plus costaud, il va falloir mettre un petit peu les formes et surtout assurer une sécurité psychologique importante. Et puis, il y a une autre manière, qui est un petit peu la manière retenue par l'HAS dans le regroupement de situations identiques qui sont et qu'on pourrait finalement adapter dans un scénario unique. Donc, c'est tout à fait applicable pour, par exemple, les erreurs médicamenteuses, pour les accidents transfusionnels qui sont souvent calqués sur la même genèse. Donc peu importe la manière dont on va construire le début de notre histoire de revue simulée de morbimortalité, ce qui va être important, c'est d'assurer un débriefing. Le débriefing, on peut, en fonction de la méthode choisie, faire un débriefing dans lequel on va faire une comparaison de la session simulée au regard des bonnes pratiques, ou alors une comparaison de la session simulée au regard de la scène initiale. En tout cas, à partir de ce débriefing, eh bien, on pourra faire une analyse systémique et surtout eh bien, rechercher quels sont les facteurs contributifs et influents et dans quel but, eh bien, proposition d'action correctrice ou proposition des axes de progression. Alors, est-ce que toutes les RMM sont simulables ? Donc, il a bien fallu mettre en place des critères. Moi, j'en propose 5. C'est pas forcément, ils sont pas forcément très. Ils peuvent être modifiables. Le premier, je me suis quand même pas trop fatigué, puisque j'ai dit que les cas de RMM doivent être transférables, enfin reproductibles en simulation. Ok ? Bon. En tout cas, ils doivent répondre effectivement, à une faisabilité spatio-temporelle. Ils doivent répondre également à une analyse de défaillance qui correspond plutôt à des facteurs humains. Et c'est là l'essentiel de la simulation, parce qu'on travaille vraiment beaucoup sur les facteurs humains. Et on va plutôt exclure toutes les problématiques purement médicales ou sans cause évitable. Et puis, ils doivent intéresser un public large. Et on va, dans la RSMM, essayer de d'évincer toutes les problématiques qui sont purement locales. Alors, pour voir si c'était faisable, je me suis amusé à décortiquer un certain nombre de RMM. Donc, j'en ai analysé 195. Merci Madame Molle et Professeur Grandris. J'ai passé un certain nombre de soirées avec vos idées. En tout cas, sur deux, j'ai réussi à récupérer 195 RMM et j'ai regardé si au regard des pratiques, eh bien, nous pouvions les transférer en simulation. Qu'est-ce que ça a dit ? Eh bien, que 71% des RMM étaient non exploitables. On verra pourquoi tout à l'heure, et il en restait une petite partie, 29%, qui était tout à fait exploitable en revue simulée de morbimortalité. Et sur cette partie de 29% exploitable, je l'ai passé un petit peu encore à la moulinette de mes critères, et il y en avait quand même 70% qui étaient réellement simulables et qui pouvaient faire une vraie matière pour la revue simulée de morbimortalité. Alors pourquoi il n'était pas exploitable en RSMM? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de problématiques exclusivement médicales. La cancéro, par exemple, est assez pourvoyeuse, très riche et très dynamique dans la revue de morbimortalité. Et là, ce n'est pas tellement utilisable en simulation. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la part des compétences non techniques, par catégorie, donc sur les compétences non techniques totales relevées, lors de l'analyse des dysfonctionnements dans les RMM, autrement, quelle est la typologie des compétences non techniques que j'ai pu relever dans l'étude de ces 195 RMM, et qu'il y avait dans près de 40% des problèmes de communication, dans près de plus de 25% des problèmes organisationnels. On peut noter aussi que la charge de travail ou la pression de productivité était présente dans ces survenus d'événements indésirables graves. Alors en gros, est-ce qu'on fait une RMM ou est-ce qu'on fait une revue simulée de morbimortalité? On regarde s'il y a des critères d'éligibilité. Il y en a, oui, on va s'orienter plutôt vers une revue simulée de morbimortalité. Il n'y en a pas, on va faire une RMM classique. Ok, la RSMM, qu'est-ce que ça va nous apporter de plus que la revue de morbimortalité? D'abord, ça va pouvoir nous apporter un élément capital, qui est la lutte contre l'effet seconde victime. Effectivement, il y a un effet catharsis qui est extrêmement intéressant. Et lorsqu'on va faire rejouer la situation par une équipe qui a eu malheureusement contact avec l'événement indésirable grave, on s'apercevoir que, ça s'est mal passé, mais il y a des choses aussi qui ont été très bien faites. Et d'où l'intérêt de le réaliser selon un débriefing comme on a l'habitude de le faire en simulation et pourquoi pas avec le good judgment. Donc ça permet vraiment un effet catharsis qui est extrêmement positif. Et puis ça permet aussi, au lieu de raconter une histoire, au lieu de notre description narrative du cas, dans le cadre d'une RMM classique, on va pouvoir montrer, au lieu de raconter, ça va donner une vraie troisième dimension à notre propos et à la mise en évidence de l'effet indésirable grave. Et puis ça va nous permettre aussi de sortir de la réunion, parce que la RMM, ça se fait même s'il y a beaucoup de monde du service, ça va pouvoir nous permettre de l'exporter, pourquoi pas de s'en servir également en formation initiale. Ça permet également, dans le cadre de programmes sur la gestion des risques, de vraiment montrer à un plus grand nombre de personnes. Est-ce que la RSMM est vraiment réalisable? Oui, on l'a fait. Madame Moll l'a fait souvent également. En tout cas, ça demande une petite expertise. Il faut réfléchir un petit peu en avant. Surtout, il va falloir aussi un accord des équipes. Lorsqu'on va faire rejouer, par exemple, une situation avec l'équipe qui a déjà eu le problème. En tout cas, il va falloir s'entourer vraiment de personnes ressources, notamment les psychologues, pour assurer toujours notre sécurité psychologique et émotionnelle. Et puis, du tout, on va retrouver la vraie problématique également de la simulation que vous connaissez tous. Il va falloir aussi essayer de dégager du temps dédié pour faire ça, puisque sur celle qu'on a fait, ça demandait 10 à 15 heures de préparation, parce qu'il va falloir tout rescénariser. Le problème d'après, si on filme, il faut faire les coupes, les montages, donc c'est vraiment chronophage. Et puis la RSMM, ça peut donner déboucher aussi sur des problématiques de recherche, notamment voir si, faire une étude comparative, est-ce que, en mesurant l'impact, quel est l'impact d'une revue morbimortalité versus une revue simulée morbimortalité, sur quoi? Sur la maîtrise du risque, puisque c'est bien là le nerf de la guerre, et puis sur, effectivement, l'amélioration et dans la sécurité des soins pour le patient. Je vous remercie.
Merci beaucoup.